C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour les commissaires, premier sujet ce matin, on revient sur la marche sur le climat qui avait lieu à Montréal et dans d'autres villes également vendredi. Il y a le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui était flanqué, on dit au total, peut-être d'une quinzaine de personnes, 20 personnes de la coalition Avenir Québec, dont le ministre Pierre Fitzgibbon. Et la délégation s'est fait huer et finalement, paraît-il qu'on leur a recommandé de quitter parce que ça devenait un petit peu trop tendu. Alors, est-ce que c'est acceptable comme ça d'empêcher un ministre ou deux ou trois de manifester? Luc?
La première chose qui aurait dû faire preuve, c'est du jugement. C'est que, qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il est allé? T'sais, moi, je comprends qu'un rassemblement, ça rassemble tout le monde. Puis qu'un rassemblement, là, le décès d'une personne, un rassemblement en solidarité avec une guerre dans un autre pays ou l'assassinat des femmes, dans d'autres pays. Oui, on comprend. Mais un rassemblement... une manifestation sur l'environnement, alors que faut lire, là, maire au front. C'est qui maire au front? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'elle demande, maire au front? Puis quand tu regardes les demandes, tu t'aperçois que c'est exactement le contraire de ce que fait le gouvernement. Par exemple, dans le chapitre qualité de l'air et de l'eau, premier point, avoir une émission des émissions de polluants à la fonderie Horn de 3 nanogrammes comme par mètre cube. C'est-tu par mètre cube? Moi, je pense que c'est par mètre cube. Mais, comme partout au Québec. Ben, c'est le premier point de la demande. Quand tu regardes dans la biodiversité, le premier point, c'est la protection des espèces en danger. Donc, juste là, ces deux points-là, le gouvernement fait exactement le contraire de ce que le maire au front demande. Le maire au front demande d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que le gouvernement fait. Alors, pourquoi ils sont allés? C'est quoi l'objectif? Et là, ça, c'est la première question. Là, moi, je pense que c'est un objectif de récupération. Et juste parce que c'est un objectif de récupération, il méritait d'être hué. Deuxièmement, être hué, est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de la violence? Si t'as pas le droit de huer, te reste quel droit? Je veux dire... Des manifestations, là, les manifestations ont été réprimées violemment à l'époque du printemps érable. Il y a eu des règles qui ont empêché, parce qu'il y avait des bris, parce qu'il y avait des cassures, parce qu'il y avait... Bon, on pouvait dire, ouais, OK, ils ont cassé des choses. Donc, on va les contraindre. Il y a eu un règlement, le P66, tu n'as plus le droit, faut que tu donnes ton itinéraire, etc. Et là, on a une manifestation pacifiste. C'est quoi le pouvoir d'une manifestation pacifiste, là? Il bloque rien, là. Il bloque les rues, mais je veux dire, il empêche personne de travailler, là. Il casse rien. Il reste juste le pouvoir de s'opposer. Il reste juste le pouvoir de dire au gouvernement, nous ne sommes pas satisfaits. Si tu leur enlèves ce droit-là, en te présentant comme étant un des membres de la manifestation, je pense que tu fais preuve d'imposture.
Ben, il n'est pas question d'enlever le droit de huer un politicien ou un candidat, une candidate. Luc, dans ce cas-ci, il y a une différence entre être hué et être hué à ce point, être intimidé, harcelé à ce point que tu te sens obligé de quitter. D'ailleurs, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement actuel, a publié sur les réseaux sociaux une déclaration à l'effet qu'il s'était senti intimidé et il a dit j'ai été victime de violence. Bon, violence verbale probablement plus que de violence physique, mais n'empêche que la sécurité qui entourait tous ces ministres qui étaient présents à la mobilisation ont recommandé à toute la délégation de la CAQ de quitter les lieux. On est en campagne électorale. Tous les candidats et candidates devraient avoir la possibilité d'être vus et entendus, peu importe le contexte. Je comprends que le jugement, ça peut être un argument, mais là, on est dans une campagne électorale. Et on fait quoi dans une campagne électorale? On échange des idées, on fait part de son programme, de sa vision des choses et du monde. Bien sûr, on veut échanger avec les électeurs, les citoyens. Et je trouve que l'ironie dans cette histoire, c'est que les jeunes, parce que beaucoup de jeunes étaient présents à cette mobilisation, demandent au gouvernement de les respecter. Hein? On veut avoir... Les jeunes demandent au gouvernement, respectez-nous, on veut vivre dans un environnement meilleur que celui que vous nous offrez. Alors, je pense que les jeunes auraient intérêt, dans le fond, à mettre de l'avant ce qu'ils demandent au gouvernement. Et un jeune, je comprends qu'on a tous été jeunes, Luc, puis on a tous tenu un jour une pancarte dans nos mains. Puis moi, je me suis fait tuer lorsque j'étais en politique également. Mais là, on est dans un contexte électoral. Alors, puis comment expliquer que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a été chaudement applaudi? En fait, sais-tu quoi? Ça ressemblait davantage à une mobilisation de Québec solidaire qu'à une mobilisation citoyenne, ce qu'on a vu vendredi dernier à Montréal.
Luc, c'est bon de débattre avec toi. Ça m'oblige à développer des nouvelles qualités. La retenue, par exemple. Premièrement, premièrement, moi, j'ai participé à des dizaines de manifestations, toujours encadrées par la police, OK? Des fois, la police proche. Des fois, la police avec... des fois, c'est arrivé, la police avec des boucliers, puis frappe sur leur bouclier en disant, OK, là, ça va faire, là. Allez-vous-en vers là. Jamais je me suis senti intimidé. J'ai senti que c'était un rapport de force. C'est un rapport de force que, là, la police dit, OK, oui, ça, non. Puis, je l'ai accepté, ce rapport de force-là. Ça, c'est la première chose. Fait que si le ministre s'est fait intimider par du monde qui font bou, 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 puis le ministre, c'est le ministre de l'Environnement qu'on a, puis c'est exactement la personne que je reconnais. C'est-à-dire quelqu'un de faible, quelqu'un qui parle à travers son chapeau, quelqu'un qui manipule l'opinion publique. Il s'est pas fait intimider. Pas plus que moi, je me suis fait intimider quand j'étais dans des manifestations. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur la question, si on empêche tout droit d'expression de son opposition, on s'en va dans le mur. On s'en va vers l'élection de personnes radicales qui vont dire « on vous a brimé ». Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec les camionneurs. Mm-hmm. Par exemple, quand j'étais au pouvoir, tu étais au pouvoir, Nathalie, j'étais au pouvoir, tu dis que tu as été hué. Penses-tu que moi, j'ai été hué? Mettons 1000 fois plus que toi, genre. Parce que moi, je me promenais dans la rue tous les jours.
Il ne s'agit pas de comparer qui a été plus
hué
que...
Moi, je me suis fait cracher d'en face. Moi, je me suis fait réveiller le matin à 6 heures du matin pendant des mois. Moi, ma femme s'est fait suivre dans la rue. Et j'ai considéré la chose suivante. J'ai considéré que j'exerçais une forme de violence sur les citoyens. Le mot est fort, mais quand même, le pouvoir est une forme de violence. On décide pour les autres.
Excuse-moi,
Je termine cet argument-là.
S'il vous plaît.
On exerce le pouvoir. En échange de quoi, on reçoit de la frustration. C'est normal.
Nathalie.
Non. Cracher au visage, Luc, te faire cracher au visage, que ta femme soit suivie dans la rue, qu'elle se sente intimidée, qu'elle sente sa sécurité compromise. Moi, excuse-moi, j'appelle plus ça un rapport de force, là. J'appelle ça, franchir une frontière qui est totalement inacceptable dans notre société. Rappelle-toi, Luc, au début de la campagne électorale, tous les chefs de parti unanimement ont dénoncé la violence et l'intimidation dont eux et leurs candidats étaient victimes. Il y a 12 personnes, là, 15 personnes en 12 jours de campagne qui ont été arrêtées. Marc, aujourd'hui, là, en ce presque 30e jour de campagne, on ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées. Mais lorsque tu dis, Luc, écoutez, il ne faut pas réprimer la frustration, la colère qui s'exprime. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'est pas question ici de réprimer le fait qu'un jeune décide de bouder un parti politique ou décide de crier un ministre, c'est un pas bon. C'est pas ça dont il s'agit. Mais moi, je dis que les jeunes auraient intérêt, dans le fond, à mettre en exercice, à mettre en pratique ce qu'ils prêchent et ce qu'ils demandent. Mais dans cette histoire-là, c'est sûr que sur le plan politique, la CAQ partait avec 2 prises, 3 balles, mais, on s'entend.
Ouais, Nathalie, je voudrais t'entendre sur un point. Oui. Tu sais que le ministre de l'Environnement, on peut débattre, là, mais Pierre Fitzgibbon, qui débarque dans une manif sur le climat, qui est allé dire qu'à Rouyn-Noranda, qu'on se calme, le monde ne meurt pas de ça, là. Écoute, ils font exprès pour provoquer les manifestants. Tu amènes Éric Duhem dans la place, puis c'est pareil, là.
Ouais, là-dessus, Paul et Luc, là, je vais pas vous obstiner. Du côté de la CAQ, on a clairement sous-estimé l'hostilité dont ils pourraient être victimes. Mais en même temps, on a une campagne électorale. Pourquoi? Pour échanger ses idées. Alors, si dans le cadre d'une mobilisation, les élus de la CAQ ne peuvent pas se présenter parce que, au dire des manifestants, ils ont pas la plateforme idéale, je me dis, OK, parfait, fine. Pourquoi une campagne électorale à ce moment-là? Parce que les manifestants qui étaient là, évidemment, on embrasse la plateforme de Québec solidaire. Puis en soi, on pourrait questionner des plateformes. Quelles sont les plateformes qui sont les plus réalistes ou non? Gabriel Nadeau-Dubois s'est retrouvé, lui aussi, sur la défensive, pas lors de la mobilisation, mais lorsqu'il était à Rimouski, parce qu'on lui reproche de nourrir l'anxiété dont souffrent les gens en matière de changement climatique. Alors, parce que lui, il martèle ad nauseam que l'élection du 3 octobre est celle de la dernière chance. Moi, ce que je dis simplement, Luc, c'est que il n'y a pas d'argument qui puisse justifier le fait que des candidats veulent s'exprimer puis annoncer leur solidarité à l'endroit des jeunes parce que la CAQ, là, qu'on peut dire qu'ils ont un très mauvais plan pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre, de la transition écologique, mais ils ont un plan puis ils veulent poser des gestes pour améliorer la qualité de l'environnement. Ils peuvent pas le faire, nous disent-ils, au même rythme que Québec solidaire, mais c'est pas vrai que la CAQ a pas posé de gestes pour améliorer la qualité de l'environnement, là.
Luc, en conclusion, rapidement.
Mais rapidement, donc, il ne s'agit pas d'empêcher le gouvernement de s'exprimer. Le gouvernement a d'immenses plateformes pour s'exprimer. Il y a des moyens d'expression extraordinaires, des communiqués, des conférences de presse. Ils peuvent téléphoner aux médias puis demander de présenter dans les médias. Ils vont être acceptés immédiatement. Là, il s'agissait de défiler contre le gouvernement.
Merci. On s'arrête là-dessus. Ben, au retour, on va poser justement, puisque nous sommes à une semaine de l'élection, quelle sera la question déterminante? Est-ce que ça va être l'environnement, l'éducation, la santé, question économique? C'est ce qu'on va voir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, dans une semaine, les Québécois iront voter. Ils ont déjà commencé, en tout cas avec le vote par anticipation. Et la question, c'est quelle sera justement la question de l'urne? Qu'est-ce qui va être déterminant, Nathalie?
Et prévoir une question de l'urne avec cinq parties, c'est comme prédire la prochaine combinaison gagnante du 6-49, hein? Parce que je crois qu'il n'y a pas une question de l'urne, je crois qu'il y a plusieurs questions de l'urne. Des exemples concrets, là, tu sais, c'est comme, tu votes pour la continuité ou le changement, tu votes pour l'expérience ou la nouveauté. Qui va en mettre le plus dans vos poches? C'était la question de l'urne de François Legault, la question qui tente d'imposer pour convaincre les électeurs de se déplacer, de voter pour la CAQ. Je vote pour le gouvernement ou l'opposition. Hier, peut-être avez-vous entendu Pierre Saint-Paul Plamondon, tout le monde en parle, dire, écoutez, nous autres, on veut devenir l'opposition officielle, ça va bien pour le PQ depuis les deux débats, ça, on sent qu'on fait le plein de votes. Et la classique des classiques là, pour ce qui est de la question de l'urne, c'est à qui je fais le plus confiance pour gouverner le Québec au cours des prochaines années. Je dis que c'est une question de l'urne classique parce que celle-là, on l'a souvent entendue. J'ai envie de vous dire, à une semaine du grand jour, là, du jour J, les chefs de parti, les candidats ont encore auront d'autres occasions pour convaincre les électeurs, mais j'ai envie de vous dire attention aux moyens choisis, parce que dans Chauveau, là, il y a des citoyens, des électeurs qui sont fatigués de recevoir à répétition, par exemple, des appels robotisés d'Éric Duhaime qui les incitent à aller voter. C'est serré, là, dans Chauveau. Fait que t'imagines, là, trois fois par jour, quatre fois par jour, le téléphone sonne, tu prends l'appel, c'est Éric Duhaime qui te demande d'aller voter. Tout ça pour dire que des fois, ça peut se retourner contre toi.
Ils ont pas bien réglé la machine, t'sais, ils l'ont mis à 12 par jour. Non, mais moi, ça m'est arrivé souvent aussi. Le monde dit, tu te présentes sans encore. Il y a encore un de tes maudits bénévoles qui se présente à ma porte. Si je vote contre vous autres,
Ben oui.
Ben là, toujours est-il que c'est très brillant de la part de Legault, cette question de l'urne, parce que le Québec a bien fait sur le point de vue économique. On n'avait jamais vu ça, un taux de chômage en bas du taux de l'Ontario. On n'avait jamais vu ça, un gain net de revenus des ménages. Il faut dire que il est à la peine, le gouvernement, sur d'autres enjeux. Tu sais, l'habitation, l'éducation, la santé, l'environnement. Les grosses crises majeures ne se règlent pas. Il y en a une sur laquelle il brille particulièrement. Alors, il veut attirer l'attention sur celle sur laquelle il brille particulièrement. Mais moi, tout au contraire, je recommanderais aux Québécois de diviser leur vote, parce que la CAQ va gagner. La CAQ va gagner, puis c'est correct. Ils vont gagner, ils vont remporter le pouvoir. Toute la question est de savoir s'ils vont avoir une grosse opposition ou une petite opposition. Et je pense que, compte tenu des crises dont on a parlé, là, je les ai mentionnées, là, l'habitation, etc., ça prend une grosse opposition. Environnement, ça prend une grosse opposition parce que c'est un gouvernement qui a mis des solutions sur la table, certaines solutions sur la table, par exemple en santé, mais dans d'autres domaines, c'est contenté de dire, ben, on manque de ressources, on va aller chercher les ressources, ou alors on va rajouter un peu d'argent, mais il n'y a pas eu un approfondissement de la question. C'est pas un gouvernement qui a approfondi la réflexion sur les crises qu'on vit. Alors, on a besoin d'une opposition forte.
Oui, on a besoin d'une opposition forte. Je suis d'accord avec toi. Ça enverra un message que, parce que la CAQ, on parle de quoi, là? 85, 90, 95 sièges. C'est énorme. D'ailleurs, bonne chance à M. Legault de gérer un caucus avec autant de députés. Ses misères font juste commencer. Mais effectivement, voter pour une grosse opposition, ça permettrait de freiner l'ardeur de certains électeurs qui, effectivement, vont tous voter.
Mais comment tu fais ça, voter pour l'opposition?
Pour la CAQ. On parle de vote stratégique.
Ouais,
toi, tu es dans ton comté, puis écoute, tu regardes ça aller, tu dis, c'est sûr que la CAQ va gagner. Alors, tu choisis, tu sais, tu votes pour les autres partis politiques, c'est-à-dire les quatre autres grands partis politiques, Paul. Puis tu regardes les sondages aussi. Mais là, j'avoue que là, c'est un peu embêtant, parce qu'une opposition forte, à peu près tous les partis, c'est-à-dire PLQ, QS, PCQ, sont à égalité. Je dis, OK, je fais une à peu près, là, autour de quoi?
Oui, 15.
C'est ça, exactement. Alors, une grosse opposition, ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas te retrouver avec une opposition par exemple, à trois partis presque égaux. À ce moment-là, ils pourraient peut-être faire front commun sur certains enjeux. Alors, ça va être extrêmement intéressant pour la suite des choses.
Moi, je pense que ça veut dire tout sauf la CAQ dans les députés, dans les comtés où la CAQ pourrait être fragile. C'est-à-dire que si t'es un péquiste frustré puis t'as décidé, non, moi, je t'écœuré, il tourne en rond, je m'en vais à la CAQ. Et là, dans ce comté-là, le PQ aurait peut-être une chance de gagner, ben, tu retournes au PQ. Pourquoi ça donnerait trois sièges au PQ, un, deux, trois sièges au PQ à la place de zéro? Pareil pour les libéraux. Et les libéraux vont passer de, quand ils ont 19 sièges? En ce moment.
Ah ouais, actuellement, ouais.
Ouais, fait que, tu sais, mettons qu'ils tombent à 13, tu sais, OK, ben, je vais peut-être les faire, moi, dans mon comté, on a peut-être une chance, on vote libéral, ils vont monter à 15, tu sais. Donc, ça sera pas un miracle, là. Ça sera pas un miracle. Il y aura pas un gouvernement minoritaire, puis il y aura pas des grosses oppositions, mais non. Pas des oppositions effondrées, mettons.
Puis en même temps, la réforme, c'est-à-dire le mode de scrutin actuel, fait en sorte que on pourrait se retrouver avec énormément d'appui, par exemple, à Éric Duhaime, alors qu'il n'a fait élire aucun député. Oui. Puis l'exemple que je vous donnais, c'est dans la région de Québec, Éric Duhaime, s'est déjà positionné en disant, tous ceux et celles qui sont contre le tramway, ben votez pour le PCQ. Et combien de gens à Québec nous disent, ben moi, je voterai pas PCQ, je vote contre le tramway, mais je vote pas PCQ, mais je vote contre le tramway, comprenez-vous? Oui. Alors ça, c'est un exemple de vote stratégique.
Et d'ailleurs, le même Duhaime qui a dit au Saguenay, c'est un référendum sur GNL. Donc,
oui, c'est ça.
Mais ça va être moi, je pense que c'est la grosse question. Est-ce que combien de députés Duhaime va faire élire? Je pense que c'est la plus grosse question. Le reste, c'est intéressant. On va regarder comté par comté. Ah, elle a gagné, elle a perdu, il a perdu. Mais est-ce que vraiment, il y a une droite qui est en montée puis qui menace le gouvernement sur sa droite? S'il n'y a pas de droite qui menace le gouvernement sur sa droite, ça veut dire que l'essentiel de son opposition est à sa gauche. Et si l'essentiel de son opposition est à sa gauche, bon, pas avec les libéraux, mais avec le reste, chez les francophones, ça veut dire que le gouvernement est obligé de faire des concessions à gauche.
Ouais, ben, du côté d'Éric Duhaime, les organisateurs, ce qu'ils visent, c'est trois comtés, Chauveau, Beauce-Nord, Beauce-Sud. Ça, c'est le discours officieux. Mais officiellement, évidemment, ils souhaitent aller chercher un plus grand nombre de comtés. Mais si Éric Duhaime et ses troupes font élire trois comtés, pour eux autres, c'est la fête au village.
Mais hypothèse, aucun. OK? Oui, et même Duhaime battu, là, avec, mettons, 17 % des voix. On s'entend qu'il va avoir un dagrogne, là. C'est-à-dire qu'il va reconnaître le résultat, mais en même temps, c'est une distorsion de la réalité.
Ben, ce qu'il pourrait faire, c'est une manif, puis après ce moment-là, le ministre, le directeur général des élections du Québec pourrait y aller pour dire, c'est épouvantable!
Non, mais sérieusement, là, c'est comme, je sais pas comment, moi, je me souviens d'une année, le Parti québécois, je pense, en 73, avait eu pas loin de 30 % des voix. 30 % Puis il a fait élire 6 députés.
C'est un système, notre système fonctionne comme ça. Hein?
Non, je sais. C'est de la distorsion, il y en a, mais cette année, là, c'est solide parce que tu as un vote d'opposition.
C'est clair. Moi, je dis, écoute, quelle que soit ma répugnance à l'admettre, c'est clair qu'à 15 % tu mérites d'avoir une représentation en chambre. C'est clair. C'est évident. On doit entendre ta voix tous les jours dans les médias comme on entend celle des autres partis. Si tu es à zéro député en chambre, ça marche pas.
Tu dis, Luc, c'est en parlant du vote de scrutin, c'est comme ça, puis qu'est-ce que vous voulez, mais non. Le 4 octobre au matin, là, si le scénario que tu évoques, Paul, se concrétise, ben je pense que François Legault ne pourra plus dire que l'enjeu de la réforme du mode de scrutin, c'est une affaire d'intellectuel. Il y a bien plus de citoyens que vous pensez qui sont préoccupés par ce qui se passe actuellement pour ce qui est de la distorsion démocratique. Écoute, en 98, ma première élection, on obtient plus de voix au Québec, puis on forme l'opposition officielle.
Mais les conservateurs ont obtenu plus.
Au fédéral.
Oui, au fédéral. Oui, les conservateurs, même chose.
Ben oui, exactement.
Moi, de toute façon, moi, je pense que la question de l'urne, c'est la vitesse des VTT sur les pistes cyclables.
Ah oui! D'ailleurs, j'en parle tantôt à l'émission. Non, mais il est temps que la campagne se termine entre
nous. Quand t'es rendu à promettre ça, là, c'est fabuleux.
Puis moi, là, la maudite margarine des tartes aux pommes, là, je comprends pas.
Quand tu vois un autre
enjeu de société. La margarine des tartes aux pommes.
On vous retrouve demain.
C'est 23.